Chapitre 5. Ce fut une douce pluie qui me réveilla de ma stupeur en plein jour dans les broussailles de la tranchée, et quand je rejoins la route en chancelant, je ne vis pas la moindre trace dans la boue fraîche. L'odeur de poisson aussi avait disparu. Les toits en ruine d'Innsmouth et ses clochers effondrés se dessinaient en gris vers le sud-est, mais je n'aperçus pas un seul être vivant dans l'étendue désolée des marécages. Ma montre qui marchait encore m'apprit qu'il était déjà plus de midi. Je doutais de la réalité de ce que j'avais vécu, mais je sentais quand même, au fond de tout cela, comme une présence hideuse. Je devais quitter cette ville maléfique et je commençais à tester mes moyens de locomotion personnels usés et engourdis. Malgré la faiblesse, la faim, l'horreur et la confusion, je me trouvais au bout d'un certain temps capable de marcher et je m'acheminais donc lentement sur la route boueuse de Rowley. Avant le soir, j'étais au village et je pus enfin dîner et me procurer des vêtements convenables. Je pris le train de nuit pour Arkham et le lendemain, je m'entretins longuement avec les autorités, ce que je fis de nouveau plus tard à Boston. Le public connaît bien à présent le résultat de ces dépositions et je souhaite, pour la sauvegarde de l'humanité, qu'il n'y ait plus rien à ajouter. Peut-être est-ce la folie qui me gagne, à moins qu'une horreur plus grande encore ou une grande merveille ne m'attende. Comme on peut l'imaginer, je renonçais à presque tout ce que j'avais prévu pour le reste de mon voyage. Visites touristiques, architecturales, études du passé, dont je me réjouissais tant. Je n'osais même pas aller voir l'étrange bijou conservé au musée de l'université du Miskatonic. Je mis cependant mon séjour à Arkham à profit pour prendre quelques notes généalogiques, chose que je désirais faire depuis longtemps, document griffonné en hâte et peu élaboré, il est vrai, mais qui pourrait m'être utile plus tard quand j'aurai le temps de les compiler et de les classer. Le conservateur de la société historique locale, M. B. Lapham Peabody, m'aida très aimablement et manifesta un intérêt sincère en apprenant que j'étais le petit-fils d'Eliza Horne d'Arkham, né en 1867, qui avait épousé James Williamson, originaire de l'Ohio, à l'âge de 17 ans. J'appris que l'un de mes oncles maternels était venu ici il y a bien des années pour effectuer une recherche analogue à la mienne et que la famille de ma grand-mère faisait l'objet d'une certaine curiosité dans le pays. Il y avait eu, disait M. Peabody, de grandes discussions autour du mariage de son père, mon arrière-grand-père donc, Benjamin Horne, juste après la guerre civile, car la filiation de sa jeune épouse était assez mystérieuse. On l'avait crue orpheline d'un Marsh du New Hampshire, un cousin des Marsh du comté d'Essex, mais elle avait été élevée en France et ignorait presque toute sa famille. Un tuteur avait déposé des fonds dans une banque de Boston pour son entretien et celui de sa gouvernante française, mais ce dernier, dont le nom n'était pas familier aux gens d'Arkham, avait fini par disparaître, si bien que la gouvernante assuma son rôle par décision du tribunal. La française, morte à présent depuis longtemps, était très taciturne et d'aucuns racontaient qu'elle en savait plus qu'elle ne voulait bien en dire. Mais la chose la plus curieuse est que personne ne put situer les prétendus parents de la jeune femme, Enoch et Lydia Marsh, parmi les familles connues du New Hampshire. Peut-être, suggérait-on, était-elle la fille naturelle d'un Marsh haut placé. En tout cas, elle avait les yeux des Marsh. On se posa surtout des questions après sa mort prématurée qui survint à la naissance de ma grand-mère, son unique enfant. Comme j'avais des a priori fâcheux sur le nom de Marsh, je n'admis pas aisément qu'il figurât dans mon propre arbre généalogique et il me déplut d'entendre M. Peabody suggérer que j'avais, moi aussi, les yeux des Marsh. Je lui fus néanmoins reconnaissant pour ces documents qui, je le savais, me seraient précieux, et je pris aux archives de nombreuses notes ainsi que des listes de livres de référence concernant la famille Horn. De Boston, je rentrai directement chez moi à Toledo et je passai un mois à Maumee pour me remettre de mon aventure. En septembre, j'entrai à l'université d'Oberlin pour ma dernière année de faculté et jusqu'en juin, je me consacrai à mes études et à d'autres occupations salutaires, ne songeant plus à mes frayeurs passées que lors de visites de certains fonctionnaires ayant trait à l'enquête qu'avaient provoqué mes appels et mon témoignage. Vers la mi-juillet, un an exactement après l'aventure d'Innsmouth, j'allais passer une semaine à Cleveland dans la famille de ma défunte mère. J'y confrontais mes nouveaux renseignements généalogiques avec les diverses notes, traditions et souvenirs familiaux qui s'y trouvaient, afin, je l'espérais, de reconstituer mon arbre généalogique. Cette tâche ne me plut guère, car l'ambiance chez les Williamson m'avait toujours déprimé. On y sentait une tension morbide, et dans mon enfance, ma mère ne m'avait jamais encouragé à aller voir ses parents, bien qu'elle fût toujours heureuse de recevoir son père quand il venait à Toledo. Ma grand-mère d'Arkham m'avait toujours paru étrange et même terrifiante, et je ne crois pas avoir été triste lorsqu'elle disparut. J'avais 8 ans alors, et l'on racontait qu'elle était morte de chagrin après le suicide de mon oncle Douglas, son fils aîné, qui s'était tiré un coup de revolver à son retour d'un voyage en Nouvelle-Angleterre, celui-là même dont la société historique d'Arkham avait gardé le souvenir. Cet oncle ressemblait à sa mère, et je ne l'avais jamais aimé non plus. Je ne sais quoi dans leur expression figée, aux paupières immobiles, me causait un vague malaise inexplicable. Ma mère et mon oncle Walter ne leur ressemblaient pas. Ils tenaient de leur père, bien que le pauvre petit cousin Lawrence, le fils de Walter, fût le portrait craché de sa grand-mère, en tout cas avant que son état ne justifie un internement à l'asile de Canton. Je ne l'avais pas vu depuis 4 ans. Mais mon oncle laissait entendre que sa santé, aussi bien mentale que physique, était désolante. C'est ce qui avait probablement causé la mort de sa mère 2 ans auparavant. Mon grand-père et Walter, son fils, veuf à présent, vivaient seuls dans la maison de Cleveland, mais les souvenirs d'autrefois y restaient pesants. Cet endroit me déplaisait toujours et je m'efforçais de mener mes recherches le plus rapidement possible. Mon grand-père me fournit une quantité impressionnante de documents, dossiers et récits relatifs aux Williamson. Pour les Horn, je dépendais de mon oncle Walter, qui mit à ma disposition le contenu de tous ces dossiers comprenant des notes, lettres, coupures de presse, souvenirs de famille, photographies et miniatures. Ce fut en parcourant les lettres et les portraits du côté des Horn que je me mis à éprouver une sorte de terreur concernant ma propre ascendance. Je l'ai dit, ma grand-mère et mon oncle Douglas m'avaient toujours inquiété. Mais maintenant, des années après leur disparition, je regardais leurs portraits avec un sentiment nettement aggravé de répulsion et de distance. Au début, je ne comprenais pas pourquoi, mais peu à peu, une sorte d'horrible association s'imposa à mon subconscient, malgré mon refus constant de seulement admettre le moindre soupçon. De toute évidence, l'expression caractéristique de ces visages me suggérait maintenant une chose que je ne voyais pas avant, une chose qui déclencherait une panique incontrôlable si j'y pensais trop. Le pire se produisit quand mon oncle me montra les bijoux des Horn déposés dans le coffre d'une banque de la ville. Certains étaient raffinés et émouvants, mais il y avait un coffret de vieilles pièces étranges venant de ma mystérieuse arrière-grand-mère et que mon oncle hésitait à me montrer. Les motifs, disait-il, en étaient grotesques, presque répugnants, et à sa connaissance, ils n'avaient jamais été portés en public, quoique ma grand-mère prenait plaisir à les contempler. De vagues légendes prétendaient qu'ils portaient malheur, et la gouvernante française de mon arrière-grand-mère avait dit qu'il ne fallait pas les porter en Nouvelle-Angleterre, alors qu'en Europe, c'était tout à fait permis. Lentement, avec réticence, mon oncle commença à déballer les objets, me suppliant de ne pas me laisser impressionner par la bizarrerie et la laideur de certains motifs. Les artistes et les archéologues qui les avaient vus en jugeaient le travail magnifique, exotique et raffiné, mais aucun ne semblait capable d'identifier leur métal ni de les rattacher à une école artistique précise. Il y avait deux bracelets, une tiare et une sorte de pectoral. Ce dernier portait en haut relief des figures d'une extravagance presque intolérable. Pendant ces explications, j'avais réussi à maîtriser mes sentiments, mais mon visage dut trahir ma terreur grandissante. Mon oncle parut soucieux et s'interrompit pour m'observer. Mais je lui fis signe de poursuivre, ce qu'il fit avec davantage encore de réticence. Il attendait visiblement une réaction quand la tiare apparut la première, mais je doute qu'il ait vraiment imaginé ce qui arriva. Je ne l'avais pas prévu non plus, car je me croyais tout à fait préparé à ce que seraient ces bijoux. Ce qui arriva, c'est que je m'évanouis sans un mot, comme je l'avais fait dans la tranchée du chemin de fer étouffée par les ronces un an auparavant. Depuis ce jour, ma vie n'a été qu'un cauchemar de sombres ruminations et de craintes. Pourtant, j'ignore quelle est la part de la folie et celle de l'horrible vérité. Mon arrière-grand-mère était une marche d'origine inconnue dont le mari vivait à Arkham. Et le vieux Zadok n'avait-il pas dit que la fille d'Obed Marsh, née d'une mère monstrueuse, avait été mariée par ruse à un homme d'Arkham? Et qu'est-ce que ce vieil ivrogne avait donc marmonné sur la ressemblance de mes yeux et de ceux du capitaine Obed? À Arkham aussi, le conservateur m'avait dit que j'avais les yeux des Marsh. Obed Marsh était-il mon arrière-arrière-grand-père? Qui donc alors, ou quoi donc, pouvait bien être mon arrière-arrière-grand-mère? Mais peut-être tout cela n'était-il que démence. Ces parures d'or blanchâtre pouvaient bien avoir été achetées à un marin d'Innsmouth par le père de mon arrière-grand-mère, quel qu'il fût. Ce regard fixe dans le visage de ma grand-mère et de l'oncle suicidé pouvait n'être que pure imagination de ma part, imagination amplifiée par l'ombre d'Innsmouth qui avait si sombrement impressionné mon esprit. Mais pourquoi mon oncle s'était-il tué après ses recherches généalogiques en Nouvelle-Angleterre? Pendant plus de 2 ans, j'ai lutté contre ses pensées, avec un certain succès. Mon père me procura une situation dans une compagnie d'assurance et je m'enterrai dans la routine le plus profondément possible. Au cours de l'hiver 1930-1931, les rêves commencèrent. Ils furent d'abord très espacés et insidieux, puis, au fil des semaines, de plus en plus nombreux et bouleversants. De grands espaces liquides s'ouvraient devant moi et j'errais à travers de gigantesques portiques engloutis et des labyrinthes de murs cyclopéens envahis d'herbes en compagnie de poissons grotesques. Ensuite, les autres formes apparurent, qui me remplissaient d'une horreur sans nom lorsque je m'éveillais. Mais pendant mes rêves, elles ne m'effrayaient pas du tout. J'étais des leurs, portant leurs ornements inhumains, parcourant leurs chemins aquatiques et récitant de monstrueuses prières dans leurs temples maléfiques au fond de la mer. J'ai fait bien d'autres rêves que je n'ai pu retenir, mais ce que je me rappelais chaque matin aurait suffi à me faire passer pour un fou ou un génie si j'avais osé tout écrire. Je sentais qu'une effroyable influence cherchait à m'arracher progressivement au monde raisonnable de la vie normale pour me plonger dans des abîmes innommables de ténèbres et d'inconnus. Tous ces phénomènes m'affectaient fortement. Ma santé et ma physionomie se dégradaient sans répit jusqu'au jour où je dus enfin renoncer à ma situation pour adopter la vie statique et recluse d'un invalide. Une bizarre affection nerveuse s'était emparée de moi. Par moments, j'étais presque incapable de fermer les yeux. C'est alors que je commençais à m'examiner devant la glace avec une inquiétude croissante. Les lents ravages de la maladie ne sont pas agréables à observer, mais dans mon cas, il y avait quelque chose de plus subtil et de plus déconcertant. Mon père parut s'en apercevoir lui aussi, car il se mit à me regarder avec curiosité, presque avec effroi. Que m'arrivait-il ? Serait-il possible que j'en vienne à ressembler à ma grand-mère et à l'oncle Douglas ? Une nuit, je fis un rêve terrifiant au cours duquel je rencontrai ma grand-mère au fond de la mer. Elle habitait un palais phosphorescent aux multiples terrasses, aux jardins étranges, de coraux lépreux et de grotesques efflorescences bractéales, et elle m'accueillit avec une chaleur qui était peut-être sardonique. Elle avait changé, comme changent ceux qui vont à l'eau, et me dit qu'elle n'était jamais morte. Au lieu de ça, elle était allée dans un lieu dont son défunt fils avait eu connaissance, et elle avait plongé dans un royaume dont les merveilles l'auraient attendu lui aussi, mais auquel il avait renoncé d'un coup de pistolet. Ce serait également mon royaume, je ne pouvais y échapper. Je ne mourrais jamais, et je vivrais avec ceux qui existaient déjà bien avant que l'homme ne foule cette planète. Je rencontrai aussi ce qui avait été sa grand-mère. Pendant 80 000 ans, Ptah-Tia-Li avait vécu dans le Hientli, où elle était revenue à la mort d'Obed-Marche. Hientli ne fut pas détruite quand les hommes d'en haut utilisèrent leurs armes de mort dans la mer. Elle fut endommagée, mais pas détruite. Ceux des profondeurs ne pouvaient être anéantis, même si la magie paléogène des anciens oubliés a pu parfois les tenir en échec. Pour le moment, ils se reposaient, mais un jour, s'ils s'en souvenaient, ils monteraient à nouveau pour s'emparer du tribut que le grand Cthulhu désirait plus que tout. La prochaine fois, ce serait une cité plus importante qu'Innsmouth. Ils avaient projeté de s'étendre et avaient apporté là-haut ce dont ils avaient besoin, mais maintenant, il leur fallait attendre une fois de plus. Je devrais faire pénitence pour avoir provoqué la mort de ceux de la surface, mais la peine ne serait pas lourde. Tel fut le rêve dans lequel je vis un Shoggoth pour la première fois, et ce spectacle me réveilla dans un hurlement d'épouvante. Ce matin-là, le miroir m'apprit clairement que j'avais acquis le look Innsmouth. Jusqu'ici, je ne me suis pas suicidé comme mon oncle Douglas. J'ai bien acheté un pistolet automatique et j'ai failli sauter le pas. Mais certains rêves m'en ont dissuadé. Les pires degrés de l'horreur s'atténuent et je me sens étrangement attiré par les profondeurs inconnues de la mer au lieu de les craindre. J'entends et je fais des choses bizarres dans mon sommeil, puis je m'éveille dans une sorte d'exaltation et non plus de terreur. Je ne crois pas avoir besoin d'attendre la métamorphose complète, comme la plupart l'ont décidé. Si je le faisais, mon père finirait probablement par me faire interner dans une maison de santé, comme mon pauvre petit cousin. Des splendeurs inouïes et stupéfiantes m'attendent dans ces profondeurs, et j'irai bientôt à leur recherche. Yor, lié, Cthulhu, Fratagen, yo, 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 non, je ne me tuerai pas, on ne peut pas m'obliger à me tuer. Je vais tout préparer pour que mon cousin s'évade de la maison de fous de Canton, et ensemble, nous irons dans l'ombre merveilleuse d'Innsmouth. Nous nagerons jusqu'à ce récif qui médite sous la mer. Nous plongerons dans les mystérieux abîmes jusqu'à la cité cyclopéenne aux 1000 colonnes, Hientli, et dans le repaire de ceux des profondeurs, nous vivrons à jamais dans l'émerveillement et dans la gloire.
Thank you.